chaîne qui est une chaîne de trois ronds, il l'appelle nœud borroméen, alors que ça c'est le nœud trait. Ça c'est un nœud proprement dit pour les mathématiciens, ça c'est une chaîne, mais il l'appelle nœud là. Non, pourquoi? Parce que, vous voyez, la façon de faire 1 avec du 3, hein, 3 en 1 c'est le nom d'un lubrifiant, il y a même des gens qui ont inventé ça, c'est Dieu. Bon, que j'aime, il dit que ce n'est pas spécifique de la religion catholique, la Trinité. Faire 3 à Dieu, 3 et 1 en même temps, ça paraît complètement invitable, et bien pourtant, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est justement réellement incompréhensible. C'est quelque chose d'impossible à expliquer, mais ça tient, ça existe. Mon image dans le miroir est inversée, et si je mets le miroir sur le mur en face de moi, je vois que c'est, je peux inverser la droite et la gauche, mais si je mets le miroir par terre, je vais inverser le haut et le bas. Si je mets le miroir au plafond, pareil. Donc si je me mets de profil, ça sera la droite et la gauche qui vont être inversées, parce que si je me mets face au miroir, c'est la dimension sagittale qui est inversée. Vous voyez, c'est la dimension sagittale qu'on appelle comme ça. Bon, la flèche. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert? Et ça, je vais vous en reparler la semaine prochaine, dans les 3 semaines qui viennent, je vais vous en parler lentement pour vous montrer comment ça marche. Parce que c'est vraiment un objet de réflexion que je considère comme une entrée dans la topologie extrêmement extraordinaire. Puisque c'est un lien entre le narcissisme, le nom du père et le nœud. Et c'est au cœur de ce qui nous occupe là pour essayer de mettre un peu d'ordre dans la clinique, pour parler un peu sérieusement de la folie, de la psychose, de l'hystérie d'Hamlet, de la psychose de Schreber, de la psychanalyse de Freud. J'ai découvert que littéralement, c'est quelque chose qui se lit, qui s'écrit, qui est un fait physique, mais qui se découvre par la littéralité. C'est quand on l'écrit qu'on s'en aperçoit. Je me suis aperçu que les mouvements, notez bien ça, les mouvements que peut faire, que peut accomplir un objet de dimension 3 dans l'espace, devant le miroir, quand vous le faites pivoter, comme je fais tourner mes doigts, hein, tous ces mouvements qui assurent l'unicité de l'objet, puisque l'objet est invariant pour ses mouvements. C'est pas comme le mouvement nœud. Le mouvement nœud, il défait le nœud, vous voyez. Bon, mais le nœud, justement, il repose sur cette fonction de... Un des trois joue un rôle exceptionnel, mais je ne sais pas lequel. Ben, le mouvement, maintenant, devant le miroir, si je fais pivoter un objet... Imaginez un danseur, tenez, un danseur, vous voyez. Il n'y a pas d'écriture de la danse, justement, vous avez remarqué. Il y en a eu des tentatives d'écriture de la danse. Il y a même Raban, ce cher Raban qui lui adore la danse et s'est mis à danser, et s'est mis à réfléchir sur la danse à partir de la psychanalyse. Je pense qu'il a tout à fait raison, Claude Raban, parce que, vous voyez, le corps qui danse dans l'espace, tous les mouvements qu'il peut faire, eh bien, tous les mouvements que peut faire un corps dans l'espace, un corps de dimension 3, pas de dimension 2, pas un corps plat, un corps volumique, hein. Il faut qu'il y ait cette dimension du fétiche, il faut qu'il y ait cette dimension de l'élément en pointe, comme dit Néa Vacan dans la Subversion du sujet. Hein, c'est une des conditions pour que fonctionne l'image narcissique, qu'il y ait des éléments en pointe. Si l'objet est de dimension 3, tous les mouvements qu'il peut faire, c'est strictement isomorphe aux permutations de 4 lettres dans le plan, à plat. Ça veut dire, vous voyez, ça veut dire qu'il y a, là je vais effacer un peu le tableau, pour vous mettre ça au tableau, parce que ça va nous retenir comme ce que j'ai encadré ici pendant ces 4 semaines, pendant ces 3 semaines maintenant. Voilà. Ça veut dire que quand vous avez un objet de dimension 3, le plus simple objet de dimension 3, c'est ça. C'est 3 vecteurs non coplanaires. Ils ont des angles droits entre eux. Hein, c'est très euclidien ce truc. Pas du tout de la topologie des objets mous. Il y a des angles, il y a de la mesure, il y a des... Bon, c'est très curieux puisque la dimension, justement, c'est un invariant topologique. Et là, je le représente par un angle droit qui est typiquement un truc euclidien. C'est la mesure de l'angle de 90 degrés. Ça, c'est un objet de réflexion. Hein, pour les timides, comme les Européens sucres, Hein, c'est quand même très curieux que la dimension soit un invariant topologique et pas un invariant métrique. Bon. Donc c'est pas seulement les angles droits, même si les angles n'étaient pas parfaitement droits, c'est pas la mesure exacte de l'angle qui compte. L'important, c'est qu'il soit pas collinéaire ni coplanaire. Bon. Si vous prenez un objet de dimension 3 qui rentre pas dans le plan, qui a des éléments en pointe, comme le nœud quand on le met à plat, vous voyez, il y a des croisements que je marque par les dessus-dessous. Dans le nœud, justement, on va réussir à faire rentrer la troisième dimension grâce à ce curieux dessin du dessus-dessous. Ce que je vais vous dire du narcissisme, c'est quelque chose justement qui est introduit à ça, à cette écriture du nœud. Eh bien, les mouvements que peuvent faire X, Y et Z dans l'espace, hein, toutes les rotations, on va appeler ça des rotations, toutes les rotations autour de ce point, c'est isomorphe. Regardez à quoi. C'est isomorphe aux permutations de quatre points dans le plan. Vous voyez ? C'est-à-dire toutes les manières d'échanger les points entre eux, de les permuter. Voyez-vous ? Selon ces différentes flèches que je suis en train de dessiner là. Vous voyez ? Si vous envisagez tous les mouvements possibles de quatre points, hein, en tant que chacun se substitue à un autre, tout ce quad-là que je m'y mets, il a laissé une place libre. C'est comme le jeu des quatre coins que vous connaissez peut-être des cours de récréation des enfants. Il y a quatre gamins qui se mettent aux quatre coins autour. Il y a quatre arbres dans la cour de récréation. Il y a quatre enfants qui jouent à changer de place. Et il y a un cinquième qui est au milieu qui essaye de piquer une place vide. Hein? Il y a combien de possibilités de mouvement comme ça dans le jeu des quatre coins? Il y a 24 possibilités. Ça, c'est les permutations. Ça s'appelle permutation. Et on appelle ça le groupe de substitution. Donc, en dimension 3, dans l'espace, de dimension 3, un objet de dimension 3 dans l'espace de dimension 3 a le même degré de liberté, voilà comment parlent les physiciens, le même degré, la même amplitude de mouvement structurellement que les permutations de 4 lettres A, B, C, D dans le plan. Ici c'est 4. Oui. Ici c'est 3, ici c'est 4. Il faut, pour arriver à rendre compte de la troisième dimension, quand on la met à plat, ben, il faut introduire une lettre de plus. C'est peut-être ça l'idée qu'ils ont, les mecs qui nous racontent des histoires, qu'ils imaginent des espaces en physique. Il y a un géomètre aussi qui est très fameux, qui s'appelle Thurston, spécialiste des surfaces, dont on prétend, moi j'ai jamais entendu dire ça, mais des gens m'ont dit qu'il paraît que Thurston pense en dimension 4. Formidable. C'est comme notre camarade du groupe d'écologie qui pense avec les autistes en dimension je ne sais pas combien. Toujours très compliqué, de manière à ce que justement soit compliqué. Moi, je pense que Lacan, il a raison de faire compliqué quand on peut faire plus simple, parce qu'il veut nous montrer quelque chose, mais c'est pas obligé. Nous, on n'est pas obligé de faire comme Lacan, on n'est pas obligé de faire compliqué, surtout quand on fait plein d'erreurs, quand on peut faire plus simple. Je veux dire, l'important, c'est quand même de faire. L'important, c'est de donner des bonnes définitions. Voilà ce que j'appelle ma petite découverte. C'est qu'il y a donc une homologie de structure. Le groupe des permutations, il s'appelle S4. Et il a 24 éléments, et il y a 24 positions. Et non seulement le 24 coïncide dans les deux cas, dans la dimension 3 et dans la dimension 2, mais avec un point de plus, hein, une lettre supplémentaire. Non seulement le chiffre 24 coïncide, mais en plus, la composition des mouvements et la composition des permutations est la même. Ça veut dire que il y a une homologie de structure forte. Il y a ce qu'on appelle un isomorphisme. L'isomorphisme, le fait que c'est S4 qui est le groupe, on l'appelle S4, le groupe des substitutions de 4 lettres. C'est justement là-dedans que Lacan va aller puiser ses 4 discours. Hein? et que justement il fait remarquer qu'il y en a peut-être un cinquième là. C'est comme les cartels, mais c'est comme les enfants au jeu des quatre coins, mon ami. Bon. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Lacan, c'est très amusant, c'est extrêmement simple, mais c'est pas simpliste. C'est ni simpliste ni simplificateur. Et que je ne crois pas du tout simplifier Lacan en disant qu'on peut bien définir les choses qui nous indiquent pour en voir tout le sucre, tout le la saveur. Le fait qu'on arrive même à s'apercevoir qu'il y a des choses qui sont absolument réelles au sens d'impossible. De la même manière, vous verrez dans le site que je vous ai indiqué tout à l'heure, j'ai publié un peu avant, là, c'est, je crois que c'était au printemps, on a mis un texte que j'ai appelé pas 3 égale 4 comme celui sur les identifications qui est dans l'U, mais un autre texte que j'ai appelé 3 différentes 4 cette fois. 3 différentes 4, c'est sur les 4 discours. Et Lacan montre qu'il y a un impossible dans les discours. Dans le séminaire L'envers de la psychanalyse, il nous explique ça. Il dit qu'il y a un réel des discours. Il en parle dans son écrit qui est Radiophonie. Il en parle à la fin de Radiophonie, du réel des discours. Il en parle aussi, tenez, dans la conférence qu'il a donnée pour la clôture d'un colloque de l'école freudienne qui s'appelle La psychanalyse et son enseignement. L'enseignement, non, c'est une allocution sur l'enseignement. C'était dans 6.17.2.3. Maintenant, c'est dans les autres écrits. Il parle du réel des discours. Dans mon article 3 différentes 4, j'ai essayé de démontrer un théorème qui dirait cet impossible du discours. Je n'ai pas réussi à trouver la démonstration jusqu'à maintenant. Bon. Donc, c'est raté pour la démonstration. Mais ce qui, par contre, pour ce que dit Lacan, c'est avéré au niveau des discours, des 4 discours. Donc vous voyez, je dirais qu'il y a un espèce de paradigme comme ça, du 4 et du 3 qui se dessine en partant du miroir. Et qu'on y rencontre là quelque chose que justement le sujet subit parce qu'il essaye de l'écrire dans sa vie. C'est ça le narcissisme. On pourrait dire que le narcissisme, c'est un sujet qui essaye d'écrire quelque chose du père et il n'y arrive pas. Et je vais vous dire à tel point qu'il n'y arrive pas. Puisque moi, je collectionne les livres sur la symétrie miroir, il n'y en a pas un seul qui vous dit ce que je vous dis sur la symétrie miroir et que j'ai écrit dans cet article. Je n'ai pas trouvé. Celui qui s'approche le plus de le dire, c'est Gardiner, qui a écrit Le monde ambidextre. Comment il fait pour ne pas le dire exactement? Les 3 premiers chapitres de son livre sont consacrés justement à la symétrie des objets de dimension 2 et des objets de dimension 3. Il traite les objets de dimension 2 et les objets de dimension 3 dans 2 chapitres différents. Et il n'arrive pas à dire justement que ce qu'il faut dire, c'est juste un tout petit peu de plus que ce que dit Gardiner, c'est que non seulement il y a une différence entre la symétrie des objets de dimension 2 et des objets de dimension 3, mais que dans le cas des objets de dimension 2, un objet de dimension 2 est identique à son symétrique, à son image miroir, hein, et que donc le miroir n'inverse pas la droite et la gauche. Ça, je vous renvoie à mon article, vous allez voir, je donne des expériences à faire chez soi pour vérifier ça. Le miroir ne renverse pas la droite et la gauche. Le miroir, il inverse une main volumique droite en une main volumique gauche, mais pas la droite et la gauche. Il inverse ce qu'on veut bien lui faire dire. Et donc, Gardiner ne dit pas que le miroir inverse dans les objets de dimension 3 une dimension, mais qu'on ne sait pas laquelle. Parce que, apparemment, les mathématiciens, ça leur reste en travers de la gorge, ils ne peuvent pas dire, mais on ne sait pas laquelle. Alors, ils trouvent toujours des phrases pour dire ça d'une autre manière. Voyez. Le réel, c'est pourtant quelque chose de fondamental en mathématiques. L'impossible, c'est grâce à ça qu'on peut faire des démonstrations. Eh bien, il y a quelque chose qui les dérange du fait que leur discipline repose sur cette impossibilité. Bon. Alors, je vais avancer maintenant dans le chapitre 2 de la manière suivante, en vous disant pourquoi j'ai mis ça, ces 3 dessins au tableau. C'est qu'en ayant introduit la difficulté pour lui, Lacan, et pour chacun de nous, de faire une chaîne à 4 de 4 nœuds trèfles, alors que la chaîne à 3 de 3 nœuds trèfles, Lacan dit l'avoir trouvée, Lacan va introduire dans le chapitre 3, quand il va expliquer pourquoi cette recherche d'une chaîne à 4 de 4 nœuds trèfles l'intéresse. Donc je vous conseille de lire ça. Ça commence dans la leçon 3 du 16 décembre 75, pour la prochaine fois. C'est page 48 dans l'édition que j'ai ici. Ça commence comme ça, sa série, sa séquence. Cette recherche m'importait extrêmement pour la raison suivante, dit Lacan. Les trois cercles du nœud borroméen ont ceci qui ne peut manquer d'être tenu. C'est qu'ils sont, à titre de cercle, tous trois équivalents. Je veux dire qu'ils sont constitués de quelque chose qui se reproduit dans les trois. Bon. Donc là, Lacan va commencer à nous parler de l'équivalence des trois. Alors, il nous parle de plusieurs choses. Bon, j'efface mon triskel et mon quadriskel, et je vais énumérer les trois problèmes que Lacan mélange, comme dans un nœud, comme dans une chaîne. À propos de quoi? À propos du fait que Lacan va nous faire passer du nœud borroméen et de son opposition aux chaînes non nouées, aux chaînes libres, aux ronds libres, de cette opposition-là, qui pouvait déjà nous faire penser que ça, c'était quelque chose de l'ordre de la structure, puisque je viens de vous dire que c'est la structure paternelle. Lacan dit c'est une métaphore impropre, le nœud, parce que ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une condensation. C'est une condensation de ce qui se passe déjà dans la symétrie miroir. Et c'est ce qui se passe pour l'enfant qui découvre qu'il y a des choses que les étrangers ne peuvent pas comprendre. Il y a des significations qui sont propres et qu'on ne peut même pas expliquer. On ne sait pas pourquoi, mais moi, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai besoin de laisser couler l'eau quand je me lave les mains. Je me lave les mains à l'eau courante, alors qu'il y en a d'autres qui se lavent les mains à l'eau stagnante. Bon, alors, il y a des sociologues qui vont vous dire « Ah ben oui, parce que dans sa famille, ses ancêtres, ils vivaient auprès d'un lac, alors ils se lavaient dans l'eau stagnante. Et puis l'autre, lui, il avait ses ancêtres qui vivaient près d'une chute d'eau. C'est pour ça qu'il se lave à l'eau stagnante. » Bon, c'est des gens qui n'ont pas encore découvert le phonème, du fait qu'on peut prendre n'importe quoi pour écrire ce qu'on va appeler sa culture, ou sa civilisation, ou son particularisme, qui peut conclure jusqu'au meurtre et au massacre. Hein, faites bien attention. C'est même pour ça que c'est un débat d'abruti. Mais n'empêche que c'est fondamental. Ça va du trauma, du malentendu des parents qui ne s'entendent pas crier jusqu'au nom du père. Hein? Et ça passe par le trait unaire, le triskel que j'ai passé. Bon. Donc cette histoire d'eau stagnante et d'eau courante, Marcel Mauss, Lacan le cite dans L'agressivité en analyse. Hein? C'est une très très belle phrase de Marcel Mauss. Parce que moi je conseille toujours pour le nom du père aux grands thérapeutes, aux grands cliniciens que nous avons, puisqu'ils ne s'en sont pas aperçus, il faudrait un jour qu'ils s'y mettent, qui pourraient lire Marcel Mauss. Je leur propose de lire le manuel d'ethnographie qui est chez Payot de Marcel Mauss, où Marcel Mauss fait la nomenclature pour les étudiants en ethnologie de tous les lieux où il y a à noter quelque chose quand on visite une civilisation inconnue de nous. Tous les lieux où on risque de rencontrer justement du nom du père. C'est-à-dire des choses que les gens font et qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi ils font comme ça. Mais eux, ils y tiennent. Ils y tiennent absolument. C'est pour ça que ce n'est pas facile de parler de rites, de religion, de choses comme ça. Parce que là, il y a quelque chose qui est absolument fondamental. Hein, on dit bien, nous sommes ni pour ni contre aucune religion. Nous avons déjà suffisamment à faire avec cette histoire de père sur les bras. Ça, c'est subversion du sujet. Donc Marcel Mauss, le traité d'ethnologie, vous pourrez voir que les noms du père, ça se glisse à l'endroit où on va, comment on dort, comment on se couche, comment on se lave, comment on mange, comment on marche, comment on danse, comment on nage, même comment on se masturbe. Ça s'appelle l'onanisme, ça s'appelle technique du corps chez Marcel Mauss. Mais vous y trouverez tout ça. Bon. Donc il y a les territoires, l'endroit où ça se passe, et puis comment on... Ça peut donner lieu à du nom du père. Et ça fait toujours des problèmes quand on rencontre un conjoint. Il faut négocier un peu le nom du père avec l'autre. Et aujourd'hui, on prétend que tout ça n'a plus d'importance, donc on ne va plus manger, faire de la cuisine, on va s'alimenter. Même pas comme les cosmonautes avec des pastilles. On peut manger chez McDonald's, on mange la cuisine industrielle. Tout le monde mange la même chose parce qu'il faut se nourrir. Il ne faut même pas se nourrir, il faut s'alimenter. Voilà. L'aliment bureaucratique, il y a tout le nom du père. Moi, je mange un McDonald's, un hamburger McDonald's par an. C'est une discipline que je me suis imposée depuis 20 ans pour montrer que je ne suis pas bégueule. Parce qu'on pourrait croire que du coup, je suis écolo, que j'aime pas la cuisine industrielle. Je trouve que les hamburgers, bon, c'est assez dégueulasse, on a l'impression de manger l'emballage et la serviette en même temps. Hein. Mais enfin, je me force pour montrer ma largeur d'esprit, vous voyez. Mais je préfère les hamburgers, comment ?
Une fois par an, la largeur d'esprit.
Oui, une fois par an. Mais je reconnais que quand je vais à New York, je vais manger un hamburger avec des frites. Près de Washington Square, il y a un bistrot pour étudiants là, où ils les font très très bien avec de la sauce à la menthe. Et en plus, on peut boire un verre de vin rouge. Pour les Américains, c'est très important. Pour les Français aussi. Bon. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas quand même être trop systématique. Mais ne m'obligez pas à manger en plus d'un hamburger à McDonald's par an. Bon. Alors, là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce que Lacan nous propose ? Il nous propose de remplacer ces trois ronds libres qui semblaient nous convenir très bien pour parler de la psychose. On ne sait pas s'il s'agit de la psychose ou de la folie, d'ailleurs, là. C'est un des problèmes les plus importants de la psychanalyse. Arriver à bien distinguer la folie et la psychose, c'est-à-dire la belle âme hegelienne de la psychose, puisque à l'école Sigmund Freud, on m'a dit, non, c'est la même chose, Lacan, il a dit ça en 48, la causalité de la folie, mais finalement, quand il parle de la folie, c'est la psychose. Moi, je ne suis pas de cette. Mais n'empêche que les trois ronds libres, Lacan va nous faire passer dans cette leçon 3, les trois ronds libres au trèfle pour parler de la psychose paranoïaque. Il va nous dire que dans ce que je vous signale là, hein, donc dans cette troisième leçon, c'est ça qui va nous occuper tout le mois, cette recherche m'importait extrêmement pour la raison suivante. Il va en venir à nous dire que sa thèse, il avait retenu de la publier parce qu'il n'était pas content du titre. Que la psychose paranoïaque, dans ses rapports avec la personnalité, il dit que c'est ce qu'il dit dès le début, c'est cette histoire d'équivalence et de rapport. Hein. Les problèmes qu'il va traiter, c'est celle-là, c'est l'équivalence. L'année d'avant, cette équivalence à propos des ronds, il l'avait appelée homogénéité. Homogène. Les ronds, ils sont homogènes, disait-il l'année d'avant. Il l'appelle équivalence, maintenant, dans ce séminaire. Et cette équivalence, il va la mettre en relation avec la notion de rapport, justement. Et qu'est-ce qui se passe à propos de cette équivalence et de ce rapport ? Il va nous parler des trois ronds. Il va nous parler des trois ronds, il avait dit homogène. Les trois ronds du beau, de la chaîne borromienne. Mais il va aussi nous parler du nœud trèfle en nous disant que l'introduit le nœud trèfle dans son discours comme étant, à propos de cette chaîne de quatre nœuds trèfles, la chaîne de quatre psychoses paranoïaques. Donc le nœud trèfle ici, Lacan va le mettre en rapport avec la paranoïa. Cette leçon, enfin, c'est les traces qu'on a des textes, hein, parce que tout ça, ça a été enregistré, transcrit. Hein. C'est pour ça que moi, j'appuie mon commentaire aussi sur les dessins, sur les problèmes topologiques qui sont parallèles à ça. N'empêche qu'il nous dit ça, et il nous dit que quand c'est équivalent, il n'y a pas de rapport. C'est pour ça qu'il ne voulait pas publier sa thèse. Il ne voulait pas republier sa thèse qu'il avait publiée dans les années 30, parce qu'il l'avait intitulée, justement, après les années 50, il ne voulait pas la republier. Il a fini par accepter de la publier au Seuil, parce que son titre, il ne le trouvait pas bon, parce qu'il disait que la psychose paranoïaque et la personnalité, ça, il parlait de leur rapport. Alors il dit, il n'y a pas de rapport, parce que c'est la même chose, c'est équivalent. Donc la psychose paranoïaque, hein, et la personnalité, il nous dit, il n'y a pas de rapport, parce que c'est équivalent. Équivalent, égal ici, non-rapport. Quand c'est équivalent, il n'y a pas de rapport. Il y a du rapport quand c'est non-équivalent. Bon. Alors, il parle de l'homogénéité des trois ronds. Et puis, à propos du rapport, il passe à la paranoïa. Il passe à la psychose paranoïaque. Paranoïaque, la psychose. Et là, il nous dit que la personnalité, la psychose paranoïaque, c'est équivalent, donc ça n'a pas de rapport. Et c'est à ce propos-là qu'il nous parle du nœud trèfle. Alors, comment il l'appelle là ? C'était bien attention, parce qu'avant, il l'avait appelé le nœud à trois. C'est ça qu'il faut, c'est à ça qu'il faut faire attention, parce que ça, il continue à l'appeler le nœud à trois. Donc, dans toute cette partie, depuis la leçon 2, il parle du nœud à trois. Et moi, je pense que Souris et Tomé, ils ont foncé à comprendre que le nœud à trois de l'accord, le nœud à trois, c'était le nœud trèfle. Voilà, voilà ma question. Est-ce que le nœud à trois, c'est le nœud trèfle ? Est-ce que le nœud à trois, ce ne serait pas plutôt aussi bien ceci ? Ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle le triskel. Voilà. Ça, c'est un triskel. Ça peut... C'est le triskel qui fait nœud, qui constitue le nœud. C'est le triskel. Donc on peut appeler ça le nœud à trois aussi bien que le nœud trèfle. Je prétends que on ne peut pas débrouiller dans le texte de Lacan, à partir de la fin de la leçon 2, quand il parle avec son public, et la leçon 3, on ne peut pas distinguer entre le nœud trèfle et le triskel pour lire ce dont il s'agit dans ce qu'il appelle nœud à trois. Et que Souris et Tomé, eux, ils ont lu nœud trèfle. Parce que moi, je peux vous montrer comment on construit une chaîne borroméenne à quatre avec quatre triskels. Ça, c'est une chose que je vous montrerai. Vous voyez, cette recherche-là que je vous propose de prolonger, de voir quelle est la difficulté du 4 borroméen, la chaîne borroméenne à 4, celle que Lacan va utiliser pour parler, il l'a déjà utilisé dans RSI. Vous voyez, dans RSI, il parle de Freud et de la chaîne à 4 dès la leçon numéro 3 aussi. C'est dans la troisième leçon, ça je vous l'ai déjà dit l'année dernière. Dans la troisième leçon, Lacan nous parle de cette chaîne pour nous expliquer comment la psychanalyse opère, la psychanalyse freudienne. Et à la fin de cette leçon numéro 3 du séminaire RSI, vous voyez, c'est des chaînes à 4. J'ai même fabriqué un petit modèle en corde de ça, sur lequel je pourrais revenir si vous voulez. Il nous dit à la fin de l'année, il nous dit qu'il appelle ce quatrième rond, il l'appelle symptôme, réalité psychique, amour pour le père, Oedipe. Et il explique que la psychanalyse opère en faisant tomber ce quatrième rond sans défaire toute la chaîne. Bon, moi, j'ai fait des conférences, j'ai fait deux conférences à Buenos Aires qui ne sont pas traduites en français, enfin, qui ne sont pas reproduites en français, parce que je les ai dites en français, mais elles ont été traduites et publiées en espagnol. Ça s'appelle clinique du processus du nœud. Bon, sur cette façon de défaire la chaîne à quatre. À partir des trois rangs. Mais là, dans le séminaire, le symptôme, il ne nous parle plus de quatre ronds, de trois ronds libres et de quatre ronds, comme dans Freud, comme dans ce qu'il dit de Freud, mais il nous parle, alors, du trèfle, du nœud à trois, ou du triskel. Et je prétends que tous les textes que l'on a recueillis de ce que dit Lacan, c'est absolument du patinage artistique, on ne peut pas savoir. Bon. Donc le problème, il est surtout de voir quelle est la matérialité de ce dont parle Lacan, parce que c'est pas à la hauteur des documents qu'on arrivera à trancher, à décider de ce dont il s'agit. Bon. Alors, c'est cette introduction du trèfle, parce que le trèfle, il va en être question plus tard dans le symptôme, et du triskel. Le triskel et le trèfle, ce sont des objets que vous trouvez dans les sons du symptôme. Alors je vous dis tout de suite, je vous distribuerai la dernière mise à jour que j'ai faite de cette, après l'avoir corrigée plusieurs fois.